Le télétravail a amené des nouveautés dans lesquelles les employeurs ont dû s'ajuster. Et ce qu'on a remarqué qui était vraiment un élément gagnant, c'est les employeurs qui font confiance à leurs employés en télétravail.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 82e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Très souvent, on va entendre des chefs d'entreprise nous dire que leurs employés sont leurs plus bels actifs. Encore mieux, ces mêmes dirigeants vont très souvent mentionner que le succès de leur organisation repose à 100% sur les gens qui œuvrent dans l'entreprise. C'est une vision que je partage également. Maintenant, comment doit-on aider ces mêmes employés à se sentir confortables? Qu'est-ce que ça signifie vraiment avoir une belle culture d'entreprise? Mon invité du jour, David Girard, cofondateur et chef des opérations chez Bonboss, est avec nous aujourd'hui pour nous dire littéralement ce qu'est un bon patron. Bonboss, qui aide les organisations en croissance à bâtir des marques humainement prospères, a aidé des entreprises de renom dans les dernières années à s'établir comme des marques employeurs. Maintenant, vous vous posez la question si vos employés doivent revenir à temps plein à vos bureaux après la pandémie? David nous donne une réponse. Vous vous demandez également ce que les entreprises qui ont passé à travers la COVID-19 ont fait de différent avec leur culture organisationnelle? David répond à cette question aussi. Et vous aurez compris que l'ensemble de la discussion est une mine d'or d'informations pour les entrepreneurs qui cherchent vraiment à comprendre ce que ça veut dire avoir une culture organisationnelle forte. Sans plus attendre, ma discussion avec David Girard. David Girard, tu es cofondateur et chef des opérations chez l'entreprise Bonboss, une entreprise qui se spécialise dans les innovations en management et leadership, en culture d'entreprise et en recrutement. Fondée en 2017, l'entreprise compte plusieurs clients de renom dans ses rangs et a pour objectif de générer un nouveau monde de travail grâce à des entreprises inclusives, innovantes et humainement prospères. David Girard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Antoine, c'est moi qui te remercie. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui.
David, on va parler culture d'entreprise aujourd'hui afin de découvrir ce que les entreprises en forte croissance afin de devenir un endroit inévitable où travailler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer aujourd'hui spécifiquement ce qu'est Bonboss et ce que vous faites et ce que vous offrez à vos clients?
Absolument, avec plaisir. Bonboss, comme tu l'as dit, est une entreprise qui a été fondée en 2017, initialement par ma conjointe et mon associé en affaires, Jenny. Et l'entreprise, notre but à nous, c'est de vraiment de placer l'être humain au centre de l'entreprise, de valoriser l'être humain pour les entreprises. Et la question initiale, c'était comment faire en sorte que les employés qui œuvrent dans les entreprises puissent œuvrer justement dans des environnements de travail qui sont épanouissants pour eux, qui sont stimulants, sains et sécuritaires. On s'est dit, dans le fond, l'influence principale pour ces équipes de travail-là, c'est le gestionnaire immédiat. Et donc, forcément, ça prend des gestionnaires qui eux-mêmes vont croire en ces valeurs-là et vont faire en sorte que ces environnements de travail se développent comme tels. Et donc, de là vient le nom, ça prend des bonboss, les fameux bonboss, ça prend des gens qui font passer l'être humain d'abord et avant tout. Et donc, Bonboss a été fondé là-dessus. Et maintenant, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on aide les organisations à croître de façon humainement prospère. C'est-à-dire qu'on rejoint l'aspect d'humain, la valorisation de l'être humain. Mais on ajoute aussi à ça l'importance de croître, de prospérer et de durer dans la pérennité. Donc, évidemment, les deux vont de pair. Et Bonboss, aujourd'hui, on est dans les employeurs, on les aide à se distinguer. On met de l'avant les gestionnaires qui se démarquent par la qualité humaine de leur gestion. On les accompagne au niveau de leur culture d'entreprise, au niveau de leur visibilité, au niveau des dernières, si on veut, des dernières méthodologies innovantes pour bien maîtriser, développer une culture d'entreprise aussi bien recruter.
Intéressant, puis je suis curieux, est-ce que c'est parti d'une problématique que ta conjointe ou toi aviez vue dans le passé? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier que, où vous vous êtes dit, bon, tu sais quoi, peut-être dans il y a des organisations au Québec qui n'ont pas compris qu'une belle croissance d'entreprise, ça passe avant tout par une culture organisationnelle qui est forte. Est-ce que ça part d'un enjeu comme ça que vous avez rencontré?
Tout à fait. Ma conjointe a gradué en relations industrielles à l'Université de Montréal et puis elle a fait quelques années sa carrière en ressources humaines et elle a pu observer justement certaines problématiques qui avaient certains enjeux et elle s'est dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, de là est parti justement le besoin de faire les choses différemment. Les gens qui cherchent un travail, qui cherchent un emploi, évidemment, on peut pas être contre la vertu. Il y a personne qui va dire, je préfère faire pour travailler dans un environnement où je ne suis pas valorisé, dans un environnement où je ne suis pas respecté. Donc, les gens cherchent à travailler pour des environnements de travail qui vont leur permettre d'être stimulants, de les valoriser, de se développer. Et il y a une corrélation très forte entre les bons boss qui permettent de faire ça et les entreprises qui réussissent à faire une croissance en retenant leurs employés de cette façon-là.
Je comprends très bien. Puis bon, je vais te poser la question là, pour entrer dans le vif du sujet directement. Qu'est-ce qu'un bon et qu'est-ce qu'un mauvais boss? Parce que bon, sur le podcast Hypercroissance, David, on reçoit des entrepreneurs de toutes sortes, des entrepreneurs du Québec, des gens dans la francophonie, également des gens un petit peu plus au sud de la frontière, qui ont des succès assez phénoménaux avec leur organisation. Donc, bien entendu, ils ont dû trouver un peu la recette pour avoir des bonnes entreprises, mais peut-être que ça ne fait pas d'eux nécessairement des bons boss, ou encore peut-être que ça fait d'eux des mauvais boss selon des standards que vous avez. Donc, qu'est-ce qu'un employeur a besoin d'avoir dans son pack-sac pour être vu comme un bon boss selon votre organisation?
En fait, c'est une excellente question et j'y répondrai avec deux angles. C'est-à-dire qu'il y a un angle qui est théorique, mais évidemment, il y a un angle qui est pratique. Pour nous, un bon boss, chez bon boss, on parle du triangle du bon boss. Je m'explique. Puisqu'on appelle ça un triangle, c'est qu'il y a trois aspects essentiels à maîtriser pour être considéré comme un bon boss ou du moins être catégorisé comme tel. D'abord, c'est un manager, c'est un gestionnaire. Il est dans une position de décideur et évidemment, s'il ne l'était pas, ben on ne parlerait pas de gestionnaire. Donc d'abord et avant tout, c'est quelqu'un qui a des compétences managériales et qui est capable d'effectuer des activités en ce sens. La deuxième chose, c'est qu'il est également un bon leader. C'est quelqu'un qui est capable de mobiliser son équipe, qui est capable de l'influencer positivement, de sorte qu'elle puisse atteindre des objectifs qui ont été fixés. Et ici, j'amènerais une notion importante, c'est que un bon boss est un bon leader, mais un leader n'est pas automatiquement un bon boss. Et souvent, les gens nous questionnent à ce niveau-là, pourquoi? En fait, c'est que le bon boss, en fait, on donne l'exemple de Steve Jobs. C'était quelqu'un qui était très, très innovant. C'était quelqu'un qui était très, très à l'avant-gardiste, mais est-ce qu'il avait la réputation d'être un bon boss? Peut-être pas. Donc, c'est vraiment important d'être un bon leader, d'être un bon manager. Mais le dernier point qui est essentiel, c'est le bon boss se démarque par sa qualité d'être humain. C'est qu'on dit de lui qu'il est bon. Ce n'est pas un titre qui est autoproclamé. C'est vraiment les gens qui sont autour de lui qui vont dire vraiment, moi, je travaille pour un bon boss. C'est quelque chose qui est une déclaration qui provient d'autrui. Et ce sont ces trois éléments-là sur lesquels on doit s'appuyer pour du moins mettre une base sur la définition de bon boss. Par la suite, rentrent les aspects un peu plus pratiques. Nous, à chaque année, depuis 2017, on fait passer un sondage en québécois pour demander aux gens, pour vous, qu'est-ce qu'un bon boss? Donc, évidemment, on va se coller à la littérature scientifique, mais également aux besoins du marché et à ce que les gens pensent réellement. Et cette année, évidemment, on a trouvé des données très intéressantes et la COVID a amené certains éléments nouveaux. Évidemment. Et ce qui ressort, en fait, si je pouvais vous donner un top 3 directement, c'est qu'un bon boss, c'est quelqu'un qui écoute et communique. C'est vraiment essentiel pour les gens. En numéro 2, on retrouve qu'un bon boss, c'est quelqu'un qui est très respectueux. Et en numéro 3, c'est quelqu'un qui est inspirant. Donc, il va pousser les gens à se dépasser et à vraiment se développer en tant que tel. Évidemment, tout ça est chapeauté par un aspect de bienveillance. Puisqu'il est un bon boss, ça va de soi. Et c'est quelqu'un aussi qui est sécurisant. On l'a remarqué au niveau de la santé physique, tout comme la santé mentale, santé psychologique, ça a été des éléments qui étaient très importants cette année. Donc, un bon boss va vraiment apporter cet élément de sécurité-là.
Intéressant. Intéressant. Puis, je te poserai des petites questions parce que, bien entendu, le volet des ressources humaines est primordial dans n'importe quelle organisation. Mais bon, si tu as des bonnes ressources humaines, si tu es capable d'avoir un bon environnement de travail, mais au final, ton entreprise n'arrive pas à atteindre une certaine croissance, ben c'est un petit peu moins intéressant. Donc, je trouve que le mix parfait, c'est une entreprise qui est capable de bien accélérer, d'être capable d'aller chercher les parts de marché nécessaires et du même coup, d'avoir une culture organisationnelle qui est forte, qui pousse les gens à se dépasser. C'est quoi les traits spécifiques que tu vois dans les entreprises, dans tes clients? C'est peut-être des anecdotes que tu pourrais nous donner, David. Des entreprises qui sont en forte croissance, des entreprises, parce que vous avez des beaux clients, là. Si on va sur votre site Internet, on est capable de voir des organisations qui, si on regarde un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, on le vend dans les voiles. C'est quoi les traits spécifiques que tu vois de ces entreprises-là qui les démarquent du reste de la compétition au niveau des ressources humaines? Est-ce qu'il y a des choses particulières que ces organisations-là font?
Je te dirais, en fait, ce qui les démarque beaucoup, c'est que ce sont des gens, des gestionnaires qui sont proches de leurs gens. Ce sont des gestionnaires qui vraiment ont réussi à entrer en relation authentique et sincère avec leurs employés. Et là, en fait, c'est-à-dire que on ne rentre pas en relation dans un niveau d'intimité très, très avancé. C'est-à-dire qu'on rentre en relation sincère pour vraiment bien communiquer et échanger en toute authenticité. Et c'est vraiment ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont, puisqu'ils valorisent l'être humain, ils sont d'abord authentiques, mais ils sont humains eux-mêmes avant tout. Ils viennent mettre de l'avant cet élément-là avec leurs équipes. Ce sont des gens aussi qui ont su s'adapter. On l'a vu beaucoup au niveau de la COVID. Ils se sont réinventés. Ils sont innovants. Ils ont repensé certaines choses pour toujours faire en sorte de garder au maximum le bien-être de leurs employés. Et un élément qu'on a remarqué aussi, notamment avec la COVID, c'est qu'il n'y a aucun de nos bons boss certifiés qui, heureusement, a dû fermer son entreprise.
C'est ça.
Et ils proviennent de toutes les industries, là. Vraiment, il n'y a pas d'industrie majeure qui est représentée dans les bons boss. Ils proviennent de partout. Ce faisant, on croit donc que le fait de vraiment cibler la valorisation de l'humain au travail, l'écoute, la communication et de fixer les cadres qui sont importants pour permettre aux employés de s'épanouir comme tels, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'ils sont en pleine croissance. Ils attirent des employés qui veulent travailler avec eux parce que ils réussissent à mettre de l'avant la cause pour laquelle ils travaillent. Donc, les gens sont mobilisés pour la cause qui est plus grande, qui est quelque chose de plus grand, qui, ensemble, désirent atteindre. Et donc, ça fait en sorte qu'ils deviennent des entreprises qui sont humainement prospères.
Intéressant tout ça. Puis, bon, tu as utilisé le terme « employé ». Donc, bien entendu, on parle de culture organisationnelle. Ça va de soi. Il y a beaucoup de changements, comme tu l'as dit également, qui sont arrivés dans la dernière année. Qu'est-ce que les employés recherchent? Qu'est-ce que vous avez été capable de voir autant dans vos, comme tu le disais un petit peu, des sondages que vous faites, les clients que vous avez? Qu'est-ce qu'un employé en 2021 recherche absolument d'une entreprise? Est-ce qu'il y a une liste d'épicerie un petit peu qui devient indispensable d'une entreprise à l'autre afin d'attirer le meilleur talent? Qu'est-ce qu'elles recherchent, ces employés?
Il y a quelques éléments qui reviennent plus souvent que d'autres, effectivement. Et en fait, pour reprendre un peu ce que je disais initialement sur les éléments qui distinguent les bons boss, on parlait de sécurité un peu plus tôt. Et c'est vraiment un élément qui est majeur aujourd'hui. La COVID n'étant pas, disons, étrangère à cela, évidemment, les gens recherchent des environnements de travail qui sont sains et sécuritaires. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir se sentir respecté, on va pouvoir œuvrer et évoluer dans un environnement qui est exempt de harcèlement, par exemple, ou qui est exempt de discrimination. Un environnement où est-ce qu'on va se sentir écouté, on va sentir qu'on fait partie du groupe et on va sentir qu'on apporte quelque chose à ce groupe-là. Donc, on amène un sens au travail qu'on fait. Les gens recherchent ça. Les gens vont aussi rechercher des environnements où est-ce qu'il y a une culture saine, évidemment. Les gens également, dans cette optique-là, il y a eu beaucoup de changements dernièrement et le télétravail a été un élément aussi qui est ressorti, évidemment, beaucoup. Les gens ont appris à apprendre ce qu'était le télétravail pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et donc, il y a plusieurs personnes qui maintenant, dans tout ce qui est conciliation de travail-famille, flexibilité, vont rechercher ce genre d'éléments-là aussi qui est important. Donc, le télétravail est vraiment venu ouvrir une porte qui semblait peut-être inexplorée auparavant, mais qui maintenant devient un élément essentiel justement pour plusieurs personnes.
Mm-hmm. Définitivement, bon, on le sait, je pense que ça risque d'être quelque chose qui s'est imprégné dû à la COVID-19 là, de manière obligatoire pour beaucoup d'organisations, mais qui a, je pense, les reins solides pour perdurer à travers le temps. Là. Je pense que beaucoup d'organisations n'auront pas le choix d'avoir un modèle hybride dans les prochaines années. Maintenant, je pense qu'il y a des organisations qui savent mieux comment naviguer à travers le télétravail que d'autres. Parce que nous, personnellement, ce qu'on a vu avec notre organisation, c'est que s'il y a un mot d'ordre qu'on s'est dit du moment qu'on est passé à 100% en télétravail, c'est de communiquer 5 à 6 fois plus qu'avant, parce que les rapports humains, la petite question que tu vas poser à ton collègue à la droite ou à la gauche, ben tu peux continuer à le faire peut-être avec des canaux comme Slack, etc. Mais bon, le rapport humain est totalement différent. Donc, on s'est donné le mandat de communiquer beaucoup plus que ce qu'on pourrait le faire habituellement. Est-ce que des bonnes ou des mauvaises pratiques que vous avez été capable d'encercler par rapport aux organisations qui font du télétravail?
Tout à fait. Il y a plusieurs bons éléments qui peuvent ressortir. Le télétravail a amené des nouveautés dans lesquelles les employeurs ont dû s'ajuster. Et ce qu'on a remarqué qui était vraiment un élément gagnant, c'est les employeurs qui font confiance à leurs employés en télétravail. Parce que pour certains, et là je fais peut-être un parallèle avec l'autre côté de la médaille, c'est que pour certains, peut-être qu'ils ont voulu micromanager au début. Le micromanagement à distance, on perd justement, comme tu le mentionnais, le lien avec les personnes. Donc, peut-être que ça peut susciter certaines appréhensions pour certains employeurs. Et donc, les gens, vraiment, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment apprécié. Donc, vraiment, un bon coup à faire, c'est de faire confiance, de donner confiance. La confiance se donne au départ. C'est vraiment important. C'est quelque chose qui démarque aussi beaucoup les bons boss. Un autre élément important, c'est évidemment, il faut investir dans sa culture d'entreprise. La culture d'entreprise est la base, les fondations souvent de ce groupe de personnes-là qui travaillent ensemble, puisqu'ils représentent des points de repère sur comment on interagit ensemble, les interactions, la dynamique, les comportements acceptés ou non acceptés. Donc ça, ça met vraiment les bases et c'est lorsque la culture est vraiment bien maîtrisée, bien définie, qu'on est capable par la suite de bien influencer le groupe de gens qui travaillent ensemble pour vraiment atteindre des objectifs. Par la suite, je vous dirais aussi, avant, on avait un peu, comme tu le mentionnais, on se tournait à la droite, on pouvait poser une question à notre collègue. Donc, ces petits rituels-là qu'on avait lorsqu'on était ensemble, près de la machine à café, les discussions de corridor et tout, lorsqu'on est tombé en télétravail, on les a perdus. Pour certaines personnes, elles se sont senties isolées. Donc, c'est devenu un peu plus difficile d'entrer en contact et de générer un peu cette dynamique-là avec l'équipe. Donc, je vous dirais, dans le fond, c'est les bonnes habitudes que vous aviez avant, continuez de les reproduire même en télétravail. Les petites rencontres, les blagues que vous faisiez, ce genre de choses-là, essayez de les adapter dans le contexte du télétravail pour ne pas perdre ces éléments qui faisaient en sorte que c'était distinctif et agréable de travailler ensemble avant. Il ne faut pas perdre de vue aussi la vision et la mission de l'entreprise. C'est pas parce qu'on ne travaille plus ensemble que les gens partent chacun de leur côté. Donc, au niveau des employeurs, c'est vraiment important de définir, et encore plus en cas de télétravail, de définir vraiment le cadre à respecter et de communiquer avec les personnes. Donc, ce sont vraiment des éléments qui vont représenter des bons coups chez les employeurs. Je parlais un petit peu de réunions, ce genre de choses-là. Peut-être que les réunions, à un moment donné, on passe nos journées devant Zoom, devant l'écran, devant le travail. On vient une fatigue oculaire, on vient fatigué d'être devant ces écrans-là. Donc, peut-être de réduire le temps de meeting. Et lorsqu'on fait un meeting, c'est de prendre le temps de prendre le temps. Je m'explique. C'est que lorsqu'on commence un meeting, peut-être ne pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans le sujet d'affaires. De prendre le temps de faire ce qu'on appelle le small talk qu'on faisait avant dans le corridor. On n'a plus l'occasion de le faire en télétravail. Donc maintenant, de prendre 5-10 minutes, de faire un tour de table. Comment ça va? Comment est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? Qu'est-ce que vous prévoyez faire en soirée? Essayez de faire cet aspect humain-là, parce que sinon, ça déshumanise facilement et ça fait en sorte que les gens deviennent disons, plus démobilisés un peu. Et c'est plus difficile pour eux.
C'est un très bon point que tu amènes. Hein? On l'a vu, beaucoup de rencontres maintenant, comparativement peut-être quand les rencontres étaient en personne, rentre directement dans le vif du sujet. Ça a du bon, ça a du moins bon. Le bon, c'est que tu peux enchaîner davantage de rencontres dans ta journée. Le moins bon, peut-être, bon, comme tu l'as dit, on perd cet aspect-là un peu humain qui fait que beaucoup de gens se sont lancés dans certaines industries. Hein. Beaucoup de gens voulaient rentrer dans le domaine de la vente, rentrer dans le domaine du service à clientèle pour interagir avec des gens, pour avoir ce rapport humain-là. Donc, peut-être qu'effectivement, ça l'a changé un petit peu dans la dernière année. J'aimerais qu'on revienne au point d'investir dans la culture d'entreprise. C'est un point que tu as amené un petit peu plus tôt, puis je trouve ça pertinent puis intéressant de partager ça avec l'audience d'entrepreneurs qui nous écoute aujourd'hui. On voit plusieurs choses avec une culture d'entreprise. Donc, bien entendu, si je vais dans un degré très, on va dire, très simple, très de base. Donc, bien entendu, d'investir dans des activités en dehors des heures du travail pour essayer de ramener l'équipe ensemble, d'avoir des logiciels à l'interne pour maximiser la communication avec ton supérieur immédiat. Plusieurs initiatives qui peuvent être faites également, bon, j'imagine, une chose que tu pourras peut-être mentionner, peut-être des bonus à donner à certains employés quand certains objectifs sont atteints. Mais est-ce qu'une formule, est-ce qu'une recette un petit peu que vous, chez Bonboss, vous arrivez et vous êtes capable de dire à vos clients, regardez, votre culture organisationnelle a l'air de rentrer dans les standards que nous, on s'est donné, mais voici, pardonnez-moi l'anglicisme, les must que vous devriez ajouter à cette recette-là. C'est quoi un petit peu qu'une organisation, c'est où est-ce qu'une entreprise doit investir son argent quand on parle de culture organisationnelle, spécifiquement dans un moment où est-ce que, encore une fois, beaucoup de gens sont en télétravail et discutent quasiment quand vidéoconférence?
En fait, tu as tout à fait raison. Il y a des éléments de base qu'il faut bien maîtriser. Mais je dirais aussi que chaque culture est différente parce que chaque entreprise a sa propre histoire. Donc, ce qu'on fait, nous, chez Bonboss, c'est qu'on a développé une méthode qui est propre à nous pour aider les entreprises à comprendre leur culture, à la maîtriser, mais aussi à l'appliquer et la faire vivre dans la pérennité. Sur ce qui est important de comprendre et sur ce quoi il faut s'asseoir, c'est vraiment c'est ces gens. La culture vit dans une entreprise à cause des gens qui collaborent ensemble. Donc, je vous dirais que souvent, on va remarquer que d'investir en formation, et c'est d'autant plus important puisqu'on s'en vient on était dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et après la COVID, possiblement que le contexte de pénurie de main-d'œuvre va revenir aussi. Donc, d'investir dans les gens à l'interne pour les aider à se développer va permettre de faire en sorte de garder cette culture qui est saine, de garder cette culture, cet élément qui vous est distinctif parce que chacun va pouvoir évoluer et faire amener cette culture-là encore plus loin. Mais d'un autre côté, ça va vous permettre aussi de peut-être avoir moins de difficultés au niveau du recrutement parce que les gens vont être capables, vous allez les garder, vous allez les former, du moins dans les meilleures conditions. Et de deux, ces gens-là vont pouvoir faire de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités, ce qui vont faire en sorte que ça créera une synergie dans votre équipe et donc la culture va pouvoir vivre à travers ça. Là-dessus, évidemment, ça prend la confiance. Dans une culture où la confiance ne règne pas, ça devient très, très difficile de provoquer l'innovation, de provoquer les échanges d'idées, puisque les gens sont peut-être un peu restreints. Donc souvent, on va remarquer ce genre d'éléments-là.
Est-ce que tu as des anecdotes peut-être à nous partager aujourd'hui?
Ben, en fait, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les employés sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Les employés qui adhèrent à la cause, qui sont pleinement impliqués dans une culture, mais évidemment, à l'extérieur de leur travail, ils vont en parler dans leur cercle d'amis, dans leur famille, dans leur, peu importe où, ce qui va faire en sorte qu'ils vont devenir vos meilleurs ambassadeurs. Et souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que dans le recrutement, les employeurs n'ont pas eu nécessairement à adopter une méthode traditionnelle de recrutement avec un affichage de poste sur Internet. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu du référencement parce que les gens à l'interne avaient confiance de référer quelqu'un d'autre qu'ils savaient qu'allait fonctionner et dans laquelle ils allaient bien fitter. Donc, on parle d'un culture fit au niveau de l'ADN de l'équipe qui va vraiment faire en sorte que ça facilite in the end, désolé l'anglicisme, mais ça facilite le recrutement pour les employeurs. Donc, vraiment de faire en sorte de mobiliser son équipe et d'en faire des ambassadeurs, c'est vraiment un must pour les entreprises au niveau du recrutement.
J'imagine que c'est un dénominateur commun que vous voyez chez vos clients qui ont beaucoup de succès au niveau organisationnel, c'est que cette culture d'ambassadeur-là est construite et fait en sorte que chaque employé, ultimement, amène peut-être 1,3 employés dans l'entreprise. Puis ça fait en sorte que l'organisation est capable de grandir de manière organiquement, du moins au niveau du recrutement.
Tout à fait. Absolument. Ça devient comme un objectif d'équipe, si on veut. Et ça fait en sorte que les gens qui travaillent ensemble sont des gens, finalement, qui partagent des intérêts communs, des valeurs communes. Donc, ils vont intégrer des gens qui leur ressemblent. Donc, ça fait en sorte que ça garde l'équilibre au niveau de l'entreprise, au niveau de la culture, et ça ne peut que profiter à l'organisation.
Intéressant. Puis bon, est-ce que tu es capable de nous parler un peu, David, de Bonboss? Comment, au jour le jour, vous aidez vos clients? Donc, disons, mettons, on prend un cas pratique, mon organisation, J7 Media, j'arrive et je vais vous voir, et bon, on veut savoir un petit peu quel service vous pourriez faire pour notre entreprise. Comment que ça fonctionne, tout ça? Est-ce que tu pourrais partager ça avec l'audience?
Absolument. En fait, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de discuter avec les gens, d'entrer en relation avec eux. Les gens vont nous arriver avec différents enjeux, différents besoins. Et dépendamment de ce qu'ils recherchent, notre proposition va vraiment se personnaliser pour eux. Évidemment, on a des services qui sont disons qui ciblent certains grands éléments, par exemple la visibilité, la marque employeur, là, d'avant, si la personne cherche à se faire connaître ou à dénouer peut-être un enjeu à ce niveau-là, ben on va aller peut-être vers la certification Bonboss. Donc la mettre de l'avant, lui montrer quelles sont ses forces en tant que gestionnaire, quels sont peut-être les points à travailler, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il réussit au niveau de sa culture, de la dynamique de l'équipe, quel est son style de leadership. On va aller peut-être dans ces éléments-là. S'il cherche davantage, il y a peut-être plus d'enjeux au niveau du recrutement, ben on va l'aborder dans un aspect avec des innovations en recrutement, parce que les méthodes traditionnelles sont peut-être un peu décalées par rapport à ce que les gens cherchent aujourd'hui sur le marché. Donc vraiment, on va s'adapter à ça. On a nos techniques qui nous sont propres, qui font en sorte qu'on va accompagner vraiment les clients vers l'atteinte de leur objectif. Et la même chose, évidemment, pour la culture d'entreprise aussi, c'est un gros morceau. C'est quelque chose qui est immensément important. Donc, vraiment, on l'a fait par étapes avec le client et on s'adapte en fonction de ses besoins. On devient vraiment un allié majeur pour la croissance humainement prospère des clients.
Donc, en gros, c'est un service davantage d'accompagnement, ce que je comprends bien.
C'est un mix des deux. Accompagnement sous forme de service, évidemment, mais aussi de produits. On peut parler, par exemple, de la certification Bonboss ou encore du Culture Book au niveau de la culture d'entreprise. Le Culture Book est une sorte de livre virtuel, une fenêtre de visibilité qui permet à l'entreprise de l'afficher sur son site web et de se faire connaître. Ça permet aux gens qui ne la connaissent pas de mettre un pied dans l'entreprise virtuellement avant même de la connaître physiquement, de pouvoir apprendre à connaître peut-être les futurs collègues de travail, les futures conditions de travail, les futurs avantages. Et ça permet aussi à l'interne d'être un point de repère de culture important pour les employés. Ça peut aussi aider comme un outil de support à l'accueil et l'intégration des nouveaux employés. Ça peut aider également au niveau de les fameux call to action pour la page carrière. D'accueillir des nouvelles personnes dans l'équipe au niveau du recrutement. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très fort pour faire vivre la culture pour une entreprise.
Intéressant. Fascinant même. Je terminerai, David, des petites questions personnelles. Pour avoir cet amour des ressources humaines, comme toi et ton entreprise l'avez, est-ce que tu lis un peu sur le sujet? Est-ce que des livres qui ont peut-être marqué ton imaginaire sur le volet des ressources humaines depuis que tu es en affaires?
Oui, il y en a un actuellement que je suis en train de lire, d'ailleurs, parce que pour moi, les ressources humaines, c'est d'abord et avant tout une question de relation entre des personnes. Et pour bien faire des relations entre les personnes, ça prend évidemment de la bonne communication. Et je suis en train de lire le livre de Guillaume Dulude, « Je suis un chercheur d'art », qui est un livre fantastique sur l'explication des relations entre les êtres humains, sur la communication, sur Guillaume étant un neuropsychologue, il explique d'une façon fantastique tout le fonctionnement du cerveau humain, entre deux cerveaux même. Donc, je suis en train de lire ça et c'est un livre qui m'inspire beaucoup et que je trouve absolument fascinant.
Intéressant. Podcast, est-ce qu'il y a peut-être, en dehors même des ressources humaines, est-ce qu'il y a des choses que tu écoutes présentement de ton côté?
Je dois avouer que j'ai pas beaucoup le temps, malheureusement, d'écouter. Étant récemment un nouveau papa aussi, je dois avouer.
Félicitations que, d'ailleurs. Hein?
Merci beaucoup. Je dois avouer que le temps parfois peut me manquer, mais évidemment, c'est quelque chose que j'aimerais faire parce qu'il y a beaucoup de sources, de ressources et de sources d'inspiration dans de nombreux podcasts et j'aimerais m'y mettre un petit peu plus quand j'aurai l'occasion.
Puis, je terminerai, bon, tu le dis, tu es nouvellement papa, donc peut-être que ça change un peu la routine. Ben, peut-être. J'imagine que ça change totalement la routine. À quoi que ça ressemble, là, présentement, la routine de travail de David?
En fait, c'est vraiment un aspect de c'est trouver son équilibre hein, dans la vie parce que, bon, on travaille de la maison la majorité du temps. Je suis avec ma conjointe qui est d'abord et avant tout ma partenaire de vie et qui devient aussi ma partenaire d'affaires et qui est la mère de cet enfant que nous avons. Et donc, c'est de vraiment trouver l'équilibre puisque bébé a ses besoins, puisque en étant les deux parents, on essaie de s'entraider au maximum comme on peut. Mais évidemment, de l'autre côté, on doit continuer à faire avancer notre entreprise. Donc, je dirais que heureusement, on peut s'appuyer sur une équipe formidable. Je tiens à les saluer. Elles se reconnaîtront. On a une équipe qui, sans laquelle on ne pourrait pas accomplir tout ce qu'on fait actuellement. Je les aime de cœur. Ils sont fantastiques. Vraiment, merci d'être là et de nous permettre de vivre, de faire tout ce qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est de trouver l'équilibre, conciliation de travail, famille, compréhension, beaucoup de communication. J'essaie de réduire un peu mes réunions, évidemment. Mais quand je suis présent, j'essaie d'être présent au maximum pour mon équipe. Et le restant du temps, ben, je passe du temps en famille, évidemment.
Ça, c'est très, très important. C'est important de le souligner. Puis bon, David, si on veut en apprendre un petit peu plus sur vous, médias sociaux, site Internet, c'est quoi le meilleur endroit là, d'en apprendre plus sur votre entreprise?
Absolument. Vous pouvez nous suivre. Ben, en fait, il y a le site web bonboss.ca. Autrement, on est présent sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Il y a également le LinkedIn professionnel de la fondatrice principale de Bonboss, Jenny Ouellet, que vous pouvez suivre. Jenny va partager plusieurs publications, plusieurs de ses pensées qui sont très, très inspirantes. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner, à nous suivre à ce niveau-là. Ce sont les meilleurs canaux pour vraiment garder contact avec nous.
Bon, ben merveilleux. David, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été très intéressant. Je suis convaincu que notre audience d'entrepreneurs va pouvoir prendre des trucs et astuces de ça et peut-être même aller vous voir pour améliorer leur culture d'entreprise. Donc, je te remercie d'avoir pris de ton temps ce matin. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. On parle souvent de croissance sur le podcast, mais très rarement de ressources humaines. J'étais content de faire un entretien différent aujourd'hui, sachant qu'une organisation ne peut passer en vitesse accélérée sans avoir une fondation forte au niveau de ses employés. J'espère d'ailleurs que les conseils que David a partagés pourront vous aider dans votre développement. Également, on continue à vous inviter à nous écrire si vous aimeriez recevoir des invités précis sur le podcast. Mon adresse courriel personnelle est dans les notes de l'épisode et je me fais toujours un plaisir de vous lire semaine après semaine. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.